Et bonjour à tous. Alors, ce matin, je vous propose une réflexion, un questionnement. Et ce questionnement, je l'ai un titre intitulé « Un des défis pour l'Église du XXIe siècle ». Et je vous propose, dans un premier temps, de faire une première lecture dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul a rédigé cette lettre aux Romains à peu près vers le 1er siècle après Jésus-Christ. Lorsque Paul s'adresse aux Romains, il parle à des gens qui vivent dans une ville qui, à l'époque, était le centre économique du monde, du bassin méditerranéen, à la fois au niveau économique, politique, religieux, philosophique. Et donc, Dieu a donné donc par le Saint-Esprit à Paul l'idée de dire, voilà, vous les chrétiens, vous vivez à Rome, dans une ville qui influence tout le bassin méditerranéen, mais ne vous conformez pas au siècle présent. Parce qu'en fait, à travers à la fois la philosophie, l'économie, la politique qui régnait à Rome, eh bien, en dessous, de manière sous-jacente, il y avait des idées, donc il y avait des fondements religieux et philosophiques. Et justement, ces derniers temps, j'ai été interpellé par un faisceau d'éléments qui m'ont questionné justement sur l'avenir de notre société et aussi sur la place de l'Église au sein de celle-ci. La première chose, c'est justement, cette semaine, a eu lieu à Strasbourg, le Forum européen de bioéthique. Ensuite de ça, j'ai lu un livre de Luc Ferry. Et puis, il y a eu les primaires pour les présidentielles. Et justement, avec la nomination d'un candidat qui a été élu sur la base d'un projet qui s'appelle le revenu universel. Et vous allez comprendre après pourquoi tout ça est lié ensemble. Alors ce matin, ma méditation, c'est plutôt un questionnement que je désire partager avec vous. Et je vais être un peu comme un lanceur d'alerte, vous dire, voilà, il y a ça dans, actuellement, que vous puissiez réfléchir. Alors mon questionnement va être le suivant. Quel est ce courant de pensée qui est le transhumanisme? Quelles en sont les conséquences? Et dans quelle mesure, justement, l'Église est influencée par ce courant? Alors tout d'abord, je vais vous parler de ce qu'est le transhumanisme. Je vais vous dire une chose, c'est de manière très simple et très humble que je vais vous parler du transhumanisme, parce que c'est quelque chose de très complexe. C'est une pensée complexe, qu'il est difficile à partager dans un temps bref. Mais je vais vous donner quelques pistes, quelques éclairages pour que vous puissiez y réfléchir et par la suite, vous pourrez toujours vous informer davantage. Donc ce courant de pensée, il est né aux USA et en fait il s'appuie sur le développement exponentiel depuis à peu près une trentaine d'années des connaissances dans le domaine de ce qu'on appelle les NBIC, c'est-à-dire les nanotechnologies, donc l'infiniment petit, les biotechnologies, c'est-à-dire tout ce qu'on va faire sur le vivant, l'informatique et le cognitivisme, c'est-à-dire le développement de l'intelligence artificielle. Et ce qui se passe, c'est qu'à travers le transhumanisme, ce qui était de la science-fiction hier eh bien, devient réalité aujourd'hui. L'un des principaux piliers du mouvement du transhumanisme, Max Moore, déclare justement dans un traité que l'on peut retrouver sur le net, voilà ce qu'il dit. Comme les humanistes, les transhumanistes privilégient la raison, le progrès et les valeurs centrées sur notre bien-être, plutôt que sur une autorité religieuse externe. Les transhumanistes étendent l'humanisme en mettant en question les limites humaines par les moyens de la science, de la technologie, combinés avec la pensée critique et créative. Nous mettons en question le caractère inévitable du vieillissement et de la mort. Nous cherchons à améliorer progressivement nos capacités intellectuelles et physiques et à nous développer émotionnellement. Nous voyons l'humanité comme une phase de transition dans le développement évolutionnaire de l'intelligence. Nous défendons l'usage de la science pour accélérer notre passage d'une condition humaine à une condition transhumaine ou post-humaine. Nous n'acceptons pas les aspects indésirables de la condition humaine. Nous mettons en question les limitations naturelles et traditionnelles de nos possibilités. Nous reconnaissons l'absurdité qu'il y a à se contenter d'accepter humblement les limites naturelles de nos vies dans le temps. Et donc, ça c'est le principe fondamental du transhumanisme. Et ce principe fondamental va se décliner dans un certain nombre de domaines, qui sont les suivants. Le premier, c'est le progrès technologique. Dans le transhumanisme, ce progrès doit servir au développement du potentiel humain, du bonheur de l'homme. Et il conteste, je cite, « les affirmations traditionnelles selon lesquelles nous devrions conserver la nature humaine inchangée de façon à nous conformer à la volonté de Dieu ou à ce qui est considéré comme naturel. » Le deuxième point, c'est la transformation de soi. Il s'agit ici justement d'une transformation à la fois physique, physiologique, psychologique. Pour les transhumanismes, nous sommes propriétaires de notre corps, nous en sommes les expérimentateurs, nous faisons ce qu'on veut de notre corps, en toute liberté. Ensuite, le point suivant, c'est l'optimisme pratique. Il s'agit en fait d'embrasser une attitude positive, dynamique et du contrôle de la vie. Je cite ce qu'ils disent, « Nous cherchons à réaliser nos idéaux dans ce monde aujourd'hui et demain. Et plutôt que de supporter une vie insatisfaisante soutenue par des rêves éveillés d'une autre vie, dans l'imaginaire ou dans une vie après la vie. » Ensuite, un des autres points, c'est ce qu'on appelle une société ouverte. Pour les transhumanismes, il doit y avoir la possibilité d'un libre-échange, une abolition des frontières et le développement d'une société collaborative. Et puis, le dernier point, c'est ce qu'on appelle la technologie intelligente. Dans le transhumanisme, l'accent est mis sur le développement des technologies sans aucun frein éthique. Et cette transformation technologique, elle va être accélérée par les découvertes dans ce qu'on appelle le génie génétique, c'est-à-dire la découverte des gènes, le fonctionnement des gènes, sur les biosciences visant justement à l'extension de la vie, les amplificateurs d'intelligence, que ce soit par des molécules chimiques ou des moyens électroniques, les interfaces plus intelligentes à des ordinateurs plus rapides, l'intégration neuro-informatique, c'est-à-dire la possibilité de relier des ordinateurs avec notre cerveau, les communications électroniques rapides, l'intelligence artificielle, les neurosciences, c'est-à-dire les sciences qui s'intéressent au fonctionnement des neurones, les réseaux neuronaux, la vie artificielle, la migration hors de la planète Terre, donc en lien avec le passage sur la planète Mars, et la nanotechnologie moléculaire. Et ce qui est important aussi à retenir, c'est que pour eux, Voilà ce qu'ils disent concernant la technologie intelligente. Nous préférons la science au mysticisme et la technologie à la prière. Ensuite, un des autres points de leur développement et de leur philosophie, c'est justement l'auto-orientation. En fait, ici, il s'agit d'un hyper-individualisme. Chacun est libre de sa propre orientation. Il fait ce qu'il veut. Nous dessinons nous-mêmes dans quelle mesure changer ou demeurer la même personne. Et enfin, le dernier point de leur philosophie, c'est la pensée rationnelle. Et ici encore, bien l'accent va être mis sur un individualisme outrancier et un athéisme total. Nous rejetons la foi aveugle et la pensée passive et confortable qui conduit au dogme, à la conformité et à la stagnation. Aucun individu, aucune institution, aucun livre, aucun principe unique ne peut servir de source ou de référence pour la vérité. Toutes les croyances sont sujettes à l'erreur et doivent pouvoir être mises à l'épreuve et mises en question. Alors vous allez me dire, voilà, c'est une philosophie. Entendez-moi bien, je ne suis pas ici pour vous faire peur, pour faire référence à ce que Yolande nous a partagé vendredi soir. Mon but, ce n'est pas de nous faire peur, ce n'est pas de vous faire peur, mais c'est de réfléchir ensemble, de se positionner, de savoir où on va. Vous allez me dire, oh, c'est qu'une philosophie, c'est qu'une idéologie, encore une de plus, qu'elle va rester cantonnée à quelques utopistes. Cependant, force est de constater que cette philosophie n'est pas portée par des farfelus, utopistes. Bien au contraire. Au premier plan, on retrouve des acteurs économiques importants au niveau international. C'est Google, c'est Facebook, c'est Apple, c'est Twitter, c'est Amazon. Ce sont toutes ces structures-là, hein, ces multinationales, qui sont à la base du mouvement transhumaniste. Par exemple, Facebook et Google proposent depuis l'année dernière une congélation de leurs ovocytes à leurs salariés. Elles pourront, selon eux, ainsi concurrencer librement les hommes en n'ayant plus à choisir entre carrière et maternité. La question qui se pose, est-ce que c'est une liberté ? Ou c'est un asservissement. D'autre part, Google a embauché donc un monsieur qui s'appelle Karl Kurzweil, qui est l'un des principaux papes entre guillemets, du transhumanisme et qui est un spécialiste de l'intelligence artificielle et qui prédit notamment la fusion de l'homme et de l'ordinateur pour entrer dans une ère nouvelle. Et il y a un an aussi, l'entreprise américaine a également annoncé la création d'une société qui s'appelle Calico, une entreprise justement dont l'ambition est d'ajouter 20 ans à l'espérance de vie humaine d'ici 10 ans. Ainsi, ces grandes multinationales travaillent au développement d'intelligence artificielle capable dans l'avenir de surpasser l'intelligence humaine. Et cette intelligence artificielle serait capable d'éprouver des émotions, de se créer elle-même, de créer elle-même de nouveaux outils, de nouveaux supports. Alors, si on regarde déjà dans la biotechnologie, le développement de la biotechnologie et de l'informatique ont conduit à réduire par 1000 le coût du séquençage de l'ADN d'un individu à peu près en 10 ans. Demain, il sera possible de sélectionner un embryon possédant certains caractères, mais surtout de réparer un gène défectueux ou d'en rajouter dans les cellules d'un embryon. Dès aujourd'hui, il est possible pour certaines maladies héréditaires, dans le cas de certaines maladies héréditaires, justement, de sélectionner les embryons sains. Et à ce moment-là, on va passer du concept de la chance au choix. Et en fait, on crée un nouvel eugénisme. On va créer une nouvelle race humaine. De plus, toujours avec le génie génétique, il sera possible de créer des embryons par clonage afin de récupérer des cellules souches en vue de recréer ses propres organes défectueux en utilisant des imprimantes 3D. Et à ce moment-là, de remplacer les organes défectueux. On devient alors un assemblage de pièces détachées, un corps en morceaux que l'on peut renouveler constamment. Au niveau médical, il s'agit aussi là d'un changement de paradigme. On passe d'une médecine curative qui est là pour soigner à une médecine méliorative. Il ne s'agit plus de soigner les gens, mais au contraire de lutter contre le vieillissement et d'améliorer leur performance, leur aspect, développer en fait une culture du jeunisme et de l'esthétique. Or, nous sommes déjà rentrés dans cette logique-là, justement avec le développement de la chirurgie esthétique et de tous les moyens mis en place pour limiter l'action de l'âge sur notre organisme. Je vous donne un exemple tout simple, le Viagra. C'est améliorer les capacités de l'homme vieillissant. Ensuite, il y a la transformation du corps. La chirurgie plastique, comme nous l'avons vu précédemment, elle permet le remodelage de notre aspect physique. Aujourd'hui, on est capable de tout remodeler. À cela, il faut ajouter l'engouement de plus en plus important, par exemple dans les salles de sport et la musculation. Depuis 4-5 ans, il y a une explosion de l'ouverture des salles de sport et de plus en plus de monde va dans les salles de sport faire c'est bien de faire du sport, mais souvent derrière, il y a cette volonté de remuscler, de remodeler le corps, et que ça soit pour les hommes ou les femmes. Et souvent, c'est aidé par des régimes alimentaires hyperprotéinés, voire même parfois dopé aux anabolisants pour augmenter plus rapidement la masse musculaire. Mais cette transformation du corps, elle passe aussi par le tatouage, le piercing, qui est un engouement de plus en plus important dans nos sociétés. Et ça, c'est pareil depuis entre 5 et 10 ans. Alors au niveau technologique, le développement des smartphones et des systèmes connectés permettent de glaner des milliards d'informations sur notre personne. On est capable aujourd'hui de connaître vos goûts, vos appétences, votre vie intime via l'ensemble des informations que vous laissez sur les réseaux sociaux, les moteurs de recherche et les objets connectés. On peut savoir où est-ce que vous êtes allé aujourd'hui. Une fois, sur mon téléphone, on me dit « Ah, vous êtes allé à tel restaurant. Est-ce que vous avez aimé le repas qu'on vous a servi ?» Et on me demandait de noter le restaurant. Vous voyez jusqu'où ça peut aller, comment ça commence à aller. Et toutes ces informations, sont gardées par les sociétés comme Google et justement vendues à des prix extrêmement chers à d'autres sociétés. Mais quel est le risque si un jour ces informations se retrouvent dans les mains de personnes mal intentionnées ou de pouvoirs totalitaires? Et d'ailleurs, pour terminer, par rapport aux objets connectés, des recherches actuelles travaillent sur des tatouages connectés qui permettraient justement le transfert d'informations, entre autres, sur l'état biologique des personnes ou bien d'autres applications. Demain même, on paierait dans les magasins avec des tatouages. Le développement de ces technologies, donc, justement, a permis aussi de développer des plateformes dites collaboratives. Airbnb, Blablacar, Itch, Hyperpop, Drivee, etc., etc. Et ce sont des plateformes numériques qui fonctionnent sur l'ensemble des informations récoltées par les systèmes informatiques et qui vont dégager des bénéfices énormes en faisant travailler des gens gratuitement ou presque. Par exemple, l'hôte qui propose une chambre sur Airbnb, si vous connaissez, ou un logement, il va créer lui-même sa page et le marketing permettant à un internaute de choisir son logement pour une location plutôt que d'aller à l'hôtel ou d'aller chez une autre personne qui propose aussi un logement sur Airbnb. De même, le conducteur qui propose un trajet via l'application Blablacar, il poste son trajet et il se doit d'être flexible s'il veut récupérer un maximum de passagers. Non seulement ce qui était un service hier, en disant « Tiens, moi je vais à telle ville, est-ce que tu veux venir avec moi ?» Ou l'autostop, eh bien, devient quelque chose de payant. Ou alors, ah, quelqu'un passe dans votre ville, tiens, si tu veux, tu viens dormir à la maison. Et demain, on lui dira, bah, écoute, je suis sur Airbnb. Et même, on peut aller plus loin, il y a même des applications maintenant qui proposent d'aller manger chez quelqu'un en payant sa part de repas. Où est l'invitation ? Non seulement ce qui était donc un service hier devient aujourd'hui une transaction, mais en plus de ça, les usagers évaluent cette dernière et de manière de plus en plus exigeante. Et tous ces phénomènes conduisent à ce qu'on appelle l'ubérisation de la société. Par exemple, pour vous donner un autre exemple, il y a une société de pub qui s'appelle Creed, qui possède un réseau de 50 000 travailleurs indépendants, qu'elle peut mettre en compétition sur des projets publicitaires. Et à ce moment-là, seuls les meilleurs seront rétribués. Alors qu'à côté de ça, eh bien, une agence de pub traditionnelle aura des dizaines de salariés qui travailleront sur ces projets et qu'elle payera tous les mois. Ainsi, cette technologie va favoriser le développement d'un hypercapitalisme totalement dérégulé. Et tout ceci conduit à développer encore davantage ce qu'on appelle le statut de travailleur pauvre et oblige à marchandiser tout. Certaines études estiment que d'ici 2025, c'est plus de 3 millions d'emplois qui vont disparaître en France. Alors comment faire pour toutes ces personnes en freelance, travailleurs intermittents, si ce n'est l'obligation de leur verser un revenu minimum, d'où justement ce projet du revenu universel, qui est plus en fait une idée d'accompagnement de l'ultralibéralisme plutôt qu'un projet de réguler et de protéger les actifs et les employés. Un philosophe américain qui s'appelle Michael Sandel considère que le transhumanisme conduit à la destruction de valeurs fondamentales de la société, dont l'humilité et la solidarité. Concernant l'humilité, qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, il dit que le fait que nous soyons profondément, que nous nous soucions profondément de nos enfants, mais que nous ne puissions jusqu'à présent pas choisir le type d'enfant que nous voulons, eh bien, ça enseigne aux parents l'art d'être ouvert à ce qui n'est pas forcément souhaité. Elle nous invite à accepter l'inattendu, à vivre avec les dissonances, à résister à l'impulsion irréfléchie qui veut tout contrôler. Mais par contre, un monde où les parents sont accoutumés à choisir le sexe et les caractéristiques génétiques de leurs enfants serait un monde inhospitalier à l'égard de l'inattendu et du non souhaité. Nous perdons alors toute humilité, toute gratitude à ce qui est donné. On est alors dans l'incapacité à accepter ce qui est différent, non voulu, inattendu. Et sur la solidarité, eh bien Sandel prend l'exemple des assurances. C'est parce que, justement, nous ignorons les risques encourus que nous prenons des assurances et que nous acceptons de payer donc des primes d'assurance, quitte à ce que d'autres en profitent plus que nous, ou bien l'inverse, que nous profitions plus que d'autres de l'argent que nous avons déposé dans ces primes. Parce qu'en fait, on ne sait pas, on ignore l'avenir, mais le risque étant le même pour tous, eh bien, on accepte de prendre le risque de s'assurer pour rien. Mais si par contre, nous sommes capables et nous sommes responsables de nos maladies, de nos tares génétiques, que nous sommes capables aussi, par des moyens techniques, d'éradiquer ces pathologies, alors ceux qui auront des espoirs d'être en bonne santé, justement, eh bien, ils ne voudront plus s'assurer. Et à ce moment-là, l'aspect solidaire de l'assurance disparaîtra. Alors vous allez me dire, quelle est la place de l'Église dans ce milieu-là ? Alors comme j'ai montré sur les deux diapositives précédentes, si elles pouvaient revenir dessus, c'est que si on réfléchit bien, la première réflexion qu'on peut avoir, c'est justement sur le principe même du transhumanisme. Comme je vous l'ai montré, ce transhumanisme, il s'oppose aux valeurs de la foi, du christianisme, du don de soi, du sacrifice, du message de Christ et du salut. Et ce que l'on entend derrière le message du transhumanisme, c'est la parole du serpent dans le jardin, dans Genèse 3, Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. » Alors de prime abord, on peut se dire que ce mouvement ne peut influencer l'Église, que les valeurs qu'il véhicule sont aux antipodes de la foi chrétienne. Cependant, la question qu'on peut se poser, ne sommes-nous pas déjà sous influence ? Ne sommes-nous pas déjà pris par un courant qui nous emporte ? Prenons l'exemple des médias, du cinéma. Si on s'arrête et qu'on décrypte les thématiques véhiculées, les super-héros, les capacités de développer ses capacités intellectuelles, physiques, par des drogues, une intelligence artificielle qui contrôlerait le monde, ou bien des individus, mi-homme, mi-machine, la possibilité de réparer son corps à l'infini. Et en fait, on se rend compte que toutes les pensées humanistes sont distillées dans les médias. Alors si on considère maintenant le point de vue des biotechnologies, quel couple aujourd'hui, en vue de concevoir un enfant, n'aurait pas recours à la science ? Que ferions-nous si la médecine diagnostiquait une pathologie chez le futur bébé ? Si la génétique nous permettait de déceler une anomalie dans notre patrimoine génétique, et est-ce que nous accepterions d'avoir un enfant porteur de cette anomalie ? Ou bien aurions-nous recours à une modification génétique ou la sélection d'embryons sains ? Quand on voit déjà combien les parents chrétiens, parce que nous sommes un milieu chrétien, font des efforts pour sélectionner les meilleures écoles pour leurs enfants, voire même sélectionner leurs amitiés, comment agirait-il par rapport à la question de la génétique ? Je vous pose la question. En Suisse, l'ensemble des mouvements évangéliques ont signé un papier qu'ils ont transmis aux différents comtés en leur disant leur non-volonté qu'on autorise ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire le fait qu'on puisse sélectionner des embryons sains chez un couple qui aurait une pathologie génétique. Voilà un exemple de positionnement. Après, ils se discutent. Concernant la transformation de soi, question. Comment réagissons-nous quand les rides apparaissent, quand les cheveux commencent à grisonner, quand la santé devient moins pétillante ? Si nous avions le moyen de retarder ce vieillissement, que ferions-nous ? Alors, dans nos églises, ne sommes-nous pas pris parfois par le jeunisme ? Je suis surpris des fois, j'ai entendu des fois des pasteurs qui sont fiers d'être en pleine forme à 70 ou 80 ans. Et ils présentent ça un peu comme une bénédiction, alors que c'est juste une grâce. La personne qui est au même âge clouée dans son lit a autant de valeur aux yeux de Dieu. Et c'est justement là un problème. Dans nos églises, parfois, lorsque les personnes ne peuvent plus être actives, que le poids des années ou la maladie est sur eux, ils sont malheureux, car ils ne peuvent plus rien faire et se sentent inutiles, abandonnés de Dieu. Mais ce que je veux vous dire ce matin, sachez que Dieu ne vous abandonne pas. C'est le moment pour vous, justement, de rentrer dans une nouvelle communion avec le Père, comme vous n'en avez jamais eu. Concernant l'individualisme maintenant, qui est prôné justement par le transhumanisme, où en sommes-nous ? Quand on regarde dans l'histoire, eh bien on considère que le collectif a disparu au cours du temps au profit de l'individu. Il y a un sociologue français très connu qui s'appelle Émile Durkheim, à la fin du 19e siècle, qui décrit justement les relations entre les personnes d'une communauté religieuse ou bien ce qu'on appelle les sociétés tribales traditionnelles. Et il dit que les liens qu'il y a entre ces personnes, c'est ce qu'on appelle une solidarité mécanique. C'est-à-dire que les membres de sociétés se ressemblent, elles ont des fonctions sociales proches, des valeurs communes fortes et une conscience collective élevée. Et à ce moment-là, la solidarité sociale, qui est qualifiée de mécanique, elle est qualifiée ainsi parce qu'elle fonctionne de manière automatique entre les individus de la communauté. Les croyances, justement, les valeurs, les comportements, les modes de pensée sont identiques. Et ces solidarités résultent de la proximité et des liens de similitude entre les individus qui vivent dans cette communauté. Et cette notion de solidarité mécanique, elle s'oppose justement à la solidarité que l'on va rencontrer dans les sociétés modernes, que l'auteur justement qualifie de solidarité organique. Et justement, cette forme de solidarité organique, elle caractérise les liens sociaux entre les individus au sein des sociétés modernes, où justement règne la division du travail, et ce qui a provoqué la diversification des activités humaines. À ce moment-là, les consciences individuelles sont moins soumises aux contraintes imposées par la conscience collective, propre justement aux sociétés traditionnelles, et elles peuvent s'exprimer plus librement dans un processus d'émancipation et d'individualisation. Et la question que je me suis posée, c'est que, est-ce que dans nos églises, est-ce que nous sommes dans des solidarités mécaniques ou bien sommes-nous dans des solidarités organiques ? Dans quelle mesure je me sens réellement attaché à la communauté, au groupe ? Ne suis-je pas déjà dans une démarche individualiste ? J'ai entendu une fois un sociologue chrétien qui s'intéresse au mouvement évangélique qui disait que justement les chrétiens vont d'une église à une autre, ils se déplacent comme ça, il y a un peu un zapping des églises. Où est la notion de communauté dans cette démarche-là ? Ne sommes-nous pas pris justement par l'individualisme ambiant ? Est-ce que nous sommes encore dans la compassion et l'altruisme ? Et par rapport à ça, je voulais quand même partager une petite anecdote que j'ai vécue il y a à peu près 10 jours. C'était en fin de semaine, je sortais de mon travail et je suis allé dans un magasin. Et je suis allé faire quelques courses. Et puis j'ai rencontré une chrétienne de l'église. On parle un petit peu, elle me raconte un petit peu sa vie, ses problèmes. Et puis elle me raconte que justement, eh bien, sa voiture, qu'elle n'a plus de voiture, etc., que c'est pas facile pour elle. Et puis moi, je fais mes courses. J'arrive à la caisse et je vois qu'elle se baladait dans le magasin avec un énorme caddie plein. Plein, 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 plein. Et moi, je suis rentré chez moi. Et en rentrant chez moi, j'étais repris. Je me suis dit, mince, il y a 5 ans en arrière, je l'aurais attendu aux caisses et je l'aurais dit, écoute, tu veux pas que je te ramène en voiture avec toutes tes courses, parce que tu vas faire comment avec tout ça ? Et j'ai vraiment été repris parce que justement par rapport à ce que je réfléchissais déjà à ce thème-là. Et je me suis dit, mais mince, dans quel individualisme je suis tombé. Et le dimanche suivant, je suis allé, justement, je l'ai vu à l'église, je suis allé la voir et je me suis excusé, je demandais pardon d'avoir manqué d'altruisme et de compassion pour elle. Et alors elle m'a dit la chose suivante. Elle m'a dit, lorsque j'ai eu ma voiture, j'ai dit, Seigneur, ma voiture, je te la donne, je veux que ça soit un outil pour toi. Et à chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un qui était chargé de courses, etc., eh bien, elle aidait les personnes, elle les emmenait, elle faisait même des détours pour justement les aider. Et puis sa voiture est tombée en panne. Et là, personne ne l'a aidée. Elle s'est retrouvée toute seule avec ses courses, à faire ses déplacements à pied, dans le transport en commun. En plus, elle travaille loin, donc elle se retrouvait dans des difficultés. Et elle s'était dit en elle-même, le jour où j'ai une voiture, c'est fini maintenant, j'ai plus personne. Et quand je suis allé la voir, elle m'a dit, ben, en fin de compte, je te remercie de m'avoir dit ça, parce que quelque part, je suis maintenant interpellé et je me rends compte que moi aussi, j'allais tomber dans un individualisme outrancier, et alors que ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Alors, si maintenant on reprend justement le passage dans Romains 12, à partir du verset 3, il est dit la chose suivante. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Vous pouvez lire la suite si vous voulez. Et moi je prends maintenant un autre passage dans 1 Corinthiens, chapitre 12 aussi. Et on va partir du verset 22. Mais bien que les membres du corps paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être honorables au rapport, les autres, ainsi nos membres ont une raison d'être ou soif d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à venir à plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre est honoré, tous les membres sont avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres seront tous avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et que nous dit justement la mise en parallèle de ces deux passages ? Eh bien que nous devons prendre soin les uns des autres. Que nous sommes tous indispensables, même ceux qui sont les plus petits. Ceux qui semblent les plus insignifiants, ceux qui sont les plus fragiles. Que justement, il n'y a pas de division dans le corps de Christ entre ceux qui font et ceux qui ne font pas. Que nous devons marcher ensemble tel un corps. Michel Schneider, il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, nous avait partagé une méditation sur la persévérance. Et j'ai réfléchi de nouveau à cette pensée par la suite. Quand il écrit « persévérer dans la communion fraternelle ». En fait, la persévérance dans le Nouveau Testament, excepté dans la lettre à Timothée, elle se rapporte toujours à un groupe, à une église. Et donc la persévérance, elle apparaît comme collective avant d'être individuelle. Et c'est justement en se soutenant les uns les autres que nous pourrons tenir jusqu'au bout, malgré l'adversité, malgré les courants contraires. Et il y a une image, moi, qui me parle beaucoup par rapport à cette notion de persévérance, c'est justement ce qui se passe lors de la fécondation. Lors de la fécondation, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des spermatozoïdes qui se retrouvent dans un courant contraire et pour atteindre cet ovule, ils doivent nager à contre-courant. Mais si vous n'avez que quelques spermatozoïdes, jamais aucun n'arrivera au but. Par contre, si vous avez des centaines et des milliers de spermatozoïdes qui nagent ensemble, eh bien, ils arriveront à aller contre le courant et aller jusqu'au bout et permettre une naissance. C'est ça, en fait, l'image de la persévérance. On ne peut pas persévérer tout seul. On a besoin d'être épaulé, d'être soutenu, d'être encouragé. Et la persévérance est une démarche collective. Alors pour conclure, si nous devions résumer la philosophie du transhumanisme, on pourrait la résumer comme ça. En fait, quelque part, c'est la convoitise de la chair, c'est la convoitise des yeux et c'est l'orgueil de la vie. Et Jean, justement, dans sa première épître au chapitre 2 nous dit les choses suivantes. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ce matin, je répète, pour moi, le but n'est pas de vous culpabiliser. Le but n'est pas de vous faire peur. Le but, c'est de vous faire réfléchir à la société dans laquelle nous sommes, vers laquelle nous allons, et qu'on puisse aussi réfléchir sur nos actes futurs, sur comment l'Église se positionnera de manière individuelle, mais surtout collective, par rapport à ces défis, à ces bouleversements qui sont devant nous. Certains semblent bons, pour la santé. Maintenant, il y a des personnes aveugles qui retrouvent la vue avec des puces électroniques, il y a des paralytiques qui arrivent à remarcher, il y a des choses extraordinaires, mais derrière ça, il y a aussi d'autres choses. Jusqu'où on va aller ? Jusqu'où, à quel moment on va dire on arrête ou on n'arrête pas ? Voilà. Mon questionnement, il était le suivant ce matin, juste pour vous le partager pour que puissions réfléchir chacun pour notre propre personne à l'évolution de notre société. Seigneur, ce matin, bien, je te prie, Seigneur, de renouveler notre intelligence. Je te prie aussi, Seigneur, de nous donner ta paix, Seigneur, cette paix qui surpasse justement toute intelligence. Seigneur, nous vivons dans un monde qui est en plein bouleversement, en pleine transformation. Et Seigneur, nous sommes embarqués dans ce bateau et c'est vrai que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, mais que nous puissions réfléchir, que nous puissions aussi comprendre aussi les temps dans lesquels nous sommes. Seigneur, vraiment que ta grâce soit sur chacun de nous et que les défis, Seigneur, de l'individualisme, de l'absence d'altruisme qui pourraient se développer, Seigneur, dans nos églises, eh bien, ne puissent être éteints, puissent être arrêtés, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, tes valeurs puissent être dans nos cœurs, dans nos relations. Au nom de Jésus-Christ. Amen.